Si vous avez votre Bible sous les yeux, et selon la traduction, vous pouvez voir que ces 6 versets de Luc sont séparés en 2 parties, avec un titre pour chacune. Dans ma Bible, la première partie s'intitule « La veuve pauvre » et la deuxième partie « Jésus annonce que le temple sera détruit ». Vous savez sûrement que nos découpages des textes ont été ajoutés par les traducteurs. Le texte biblique, à l'origine, n'a pas été écrit tel que nous le recevons dans nos Bibles. Il est le fruit d'un long processus de transmission orale, d'abord, puis de rédaction, et enfin de classification. Le découpage en chapitres et en versets est le fruit d'un travail postérieur. À l'origine, le texte était d'un seul tenant, sans ponctuation, sur des parchemins plus ou moins résistants. Cela le rendait difficile à lire. Mais d'un autre côté, la forme du texte incitait peut-être le lecteur à en percevoir la continuité et à en ressentir le souffle narratif. Aujourd'hui, des titres, choisis subjectivement, sont donnés lors du découpage en séquence. Elle aussi avec un parti pris. Cela pour faciliter notre lecture d'un épisode à l'autre. Mais d'une certaine façon, notre lecture en est aussi orientée, et parfois même faussée. Les 4 premiers versets de notre passages sont intitulés « La veuve pauvre ». Mais relisons ces versets. Dans le temple, Jésus regarde autour de lui. Il voit des gens riches qui mettent leurs offrandes à l'endroit réservé pour cela. Il voit aussi une veuve très pauvre. Elle met 2 pièces qui ont peu de valeur. Jésus dit, vraiment, je vous le dis, cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. En effet, tous les autres ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop, mais elle qui manque de tout a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Nous entendons que le texte commence par parler des gens riches, de ceux qui déposent leurs dons. Pourquoi sont-ils exclus du titre? Ici, riches et pauvres sont mis en balance. Une autre difficulté vient de la séparation de ces 4 versets avec la suite, les versets 5 et 6. Ensuite, des gens parlent du temple et disent « Il est magnifique avec ses belles pierres et ses objets offerts à Dieu. » Et Jésus leur répond « Vous voyez tout cela? Eh bien, un jour viendra où tout sera détruit, il ne restera pas une seule pierre sur une autre. » Les traducteurs et exégètes qui étudient la Bible ne sont bien sûr pas des amateurs. Ce sont des chercheurs d'une grande érudition et ils essaient de placer les coupures dans le texte quand cela le justifie. Par exemple, lorsqu'il y a une indication de mouvement, on peut imaginer que nous changeons d'épisode. Si Jésus traverse le lac et arrive de l'autre côté, dans ce cas, à peu de discussions possibles, nous débutons un nouveau chapitre du récit. Seulement ici, pour moi, il n'y a pas d'indication de la sorte. Jésus est toujours dans le temple. Il n'y a pas de changement de lieu. Jésus est dans le temple et il y enseigne depuis le début du chapitre 20. Et nous sommes ici au chapitre 21. Jésus reste au temple jusqu'à la fin du chapitre, où il rejoindra ensuite pour la nuit le mont des Oliviers, pour la fête de la Pâque. Jésus reste donc là où il était et continue son observation des personnes au temple. Cette coupure est pour moi assez arbitraire. Lus séparément, les 2 textes vont avoir une signification propre. Dans la première partie, Jésus met l'accent sur le don exigeant de la femme pauvre qui donne beaucoup plus que les personnes riches qui, eux, donnent de leur superflu. Selon les traductions, on nous donne cette précision que le don est fait dans le tronc du trésor du temple. Dans le temple de Jérusalem, il y avait 13 troncs en forme de trompette pour recueillir les dons destinés au service du culte. Un d'eux portait la légende « Or pour le couvercle de l'arche ». Le temple de Jérusalem était doré grâce à l'argent des fidèles. Cela n'existe plus aujourd'hui, n'est-ce pas ? Généralement, ces troncs de la salle des trésors étaient honorés par celles et ceux qui pouvaient mettre de grosses sommes, mais jamais par les pauvres. Pourtant, la veuve y glisse 2 pièces. Alors, très simplement, une conclusion assez commune de cette première partie, prise toute seule, serait de dire « Les gens pauvres sont souvent plus généreux que les gens riches. » Bon. Est-ce tout ce que Jésus voudrait nous dire ? Regardons la deuxième partie. Des gens parlent du temple et disent « Il est magnifique, avec ses belles pierres et les objets offerts à Dieu. » Jésus leur répond « Vous voyez tout cela ? Eh bien, un jour viendra où tout sera détruit, il ne restera pas une seule pierre sur une autre. » Nous retrouvons un Jésus qui réprimande ouvertement les quelques-uns qui s'extasient devant la beauté architecturale du temple et de son ornementation. Jésus est sévère, me semble-t-il, car les lieux sont aussi importants pour se sentir accueilli, pour pouvoir louer Dieu et écouter sa parole. Pourtant, la signification de ce deuxième passage paraît elle aussi très claire. Les murs, les objets, les moyens mis en œuvre ne doivent pas être objets de contemplation pour eux-mêmes, mais uniquement pour conduire à la louange de Dieu et à l'écoute de sa parole. Les vitraux, par exemple, ici, dans notre temple, qui ont été confectionnés par les frères de Thésée, ne sont pas ici en eux-mêmes pour s'extasier sur leur beauté, mais sont placés dans ce temple comme écho pour conduire à l'écoute de la parole de Dieu. Jésus, dans ce texte, conduit ses interlocuteurs et nous-mêmes à l'essentiel, la parole du Père. Deux textes, donc, avec deux conclusions. D'abord, une conclusion éthique ou sociologique. Les gens pauvres sont souvent plus généreux que les gens riches. Second texte, une dimension spirituelle. La beauté du temple doit uniquement conduire à la parole de Dieu. Mais maintenant, si nous lisons ces deux textes à la suite, comme faisant partie d'une même entité, une autre interprétation se dégage, avec une dimension assez étrange. Le don de la veuve, mis en valeur par Jésus, ne sert à rien, puisque l'édifice auquel il est destiné tombera pierre sur pierre. C'est ce que dit Jésus. L'offrande de la veuve, qui est tout ce qu'elle a, ne servira à rien puisque ce temple va s'effondrer. En associant les deux textes, la dimension éthique tombe et paraît même complètement absurde. Riche ou pauvre, pour orner le temple, peu importe, car les pierres tombent. Cela nous pousse à comprendre l'appréciation de Jésus sur le riche et le pauvre d'une manière tout autre, beaucoup plus profonde et spirituelle. Bien que dans le texte, Jésus ne s'adresse pas à cette femme, elle entre dans son regard aimant. Jésus connaît et apprécie son don à la hauteur de son investissement. Donner pour cette femme qui n'a rien, dans le tronc réservé au trésor du temple, c'est pour elle se donner à Dieu. Il sait que cette femme lui donne tout, même ce qu'elle n'a pas. En faisant tomber le découpage de ce texte, nous découvrons qu'il n'est finalement pas ici question de possession matérielle, puisqu'elles sont complètement vaines. Ces 6 versets, liés entre eux, nous parlent de foi, de confiance. Et nous retrouvons ici le cœur de l'Évangile, la bonne nouvelle. En se dessaisissant de tout, même de son manque, cette femme entre dans le regard de Jésus. C'est la beauté et l'absurdité de la foi. En acceptant de ne pas tout savoir et de ne pas tout comprendre, se donner tout entier au Christ dans ses richesses et ses manques, dans sa vie et dans sa mort, dans sa joie et dans sa peine. Et c'est ce que ce Jésus enseignant fera les chapitres suivants dans l'Évangile de Luc, en se donnant tout entier sur la croix pour le monde. Aujourd'hui, la foi, c'est se donner au Christ en se détachant de toute autre seigneurie dans nos vies. Je place en Jésus-Christ seul toute ma confiance. Quel défi, quelle beauté. C'est alors se donner et recevoir un trésor bien plus précieux que tout l'or du temple de Jérusalem. Ce trésor, c'est le regard de Jésus offert pour moi. C'est la grâce de ma vie. Amen.